les applaudir. C'est absolument magnifique. Alors bonjour à tous, ceux qui sont vers leur écran, devant ou derrière, ça dépend. Et bienvenue à tous ceux qui sont ici présents pour ce culte. Une bienvenue particulière à ceux qui viennent de la paroisse protestante, juste à côté, qui sont peut-être là aussi. Et est-ce qu'il y a des nouveaux ce matin? Des gens qui ne sont jamais venus? Il n'y en a pas? Oui? Alors bienvenue. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse donner une parole d'encouragement, une parole de joie, une parole d'amour en se saluant. Alors pour les questions sanitaires, on ne va pas demander de faire un saint baiser, comme c'est marqué dans la Bible. Pas forcément se serrer la main, mais juste un petit geste pour votre voisin, votre voisine. Profitez de le faire. Effectivement, c'est une joie d'être ensemble, de participer à ce culte, de célébrer notre Seigneur. Alors ce matin, on va parler d'une histoire étrange. Notre Dieu va nous parler au travers d'un texte, d'un âne. C'est bizarre hein, de parler d'un âne à l'église. Et cet âne, en plus, il parle. C'est vraiment bizarre. Hein. On va parler d'un âne, l'histoire de Balaam, pour ceux qui connaissent. Et on va essayer de savoir pourquoi cet âne parle à un moment donné. Et nous, est-ce que Dieu nous parle aussi? Est-ce que dans nos circonstances, est-ce que dans nos rêves, dans nos songes, le Seigneur nous parle? Moi, je crois que oui, que de temps en temps, il parle. Peut-être pas tous les jours, mais quand même, il parle encore aujourd'hui. Il a différentes manières de parler. Il peut se révéler effectivement dans un songe, dans une vision, par une parole, par un ami qui nous dit quelque chose qui nous touche, par la Bible, bien sûr. Alors le Dieu est toujours le même et il parle encore. C'était le cas il y a 2000 ans, quand Jésus est venu, et c'est encore le cas aujourd'hui. Alors je sais que la vie n'est pas toujours un fleuve tranquille, que tout se passe bien. Il y a des fois des difficultés, il y a des fois des problèmes, il y a des fois des questions de santé, mais notre Dieu est toujours là et il nous accompagne. Or, j'espère que vous pourrez aussi raconter des histoires comme quoi Dieu vous a parlé, comme quoi Dieu vous a visité, qui s'est manifesté à vous. Alors, j'aimerais prier avant qu'on continue ce culte. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, permets-nous d'être attentifs pendant ce culte à ta parole, à ce qui sera dit par Philippe, que ce soit vraiment un temps de construction, d'édification, que nous puissions progresser dans notre foi. Nous te louons aussi pour la joie de te connaître, la joie d'être ensemble dans une communauté où tout le monde s'aime. Seigneur, merci parce que tu es là au milieu de nous. Nous te prions de bénir chacun pendant ce culte, que chacun reçoive quelque chose et que chacun puisse se sentir à l'aise, se sentir aimé de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, on vous invite à rentrer dans un temps de louange, de joie, et nous allons pouvoir exprimer par le chant notre joie de lui appartenir. Merci au groupe de louange d'avoir préparé quelques chants.
Bonjour. Alors pour être en marche avec Dieu, je vous lis le psaume 25, 1 à 5. Vers toi, Yahvé, j'élève mon âme, ô mon Dieu. En toi, je me confie, que je n'ai point honte, que mes ennemis ne se rient de moi. Pour qui espère en toi, point de honte, mais honte à qui trahit sans raison. Fais-moi connaître, Yahvé, tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans ta vérité, enseigne-moi. C'est toi le Dieu de mon salut, en toi, tout le jour, j'espère. Nous allons chanter ce chant qui dit « Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde, Jésus, je te suivrai. »
Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai.
Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi.
Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Jésus, je te suivrai.
Je vais lire le psaume 23, le psaume bien connu du berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chantons ensemble, béni soit ton nom.
Prendre place une minute ou deux. Les enfants vont pouvoir rejoindre leur école du dimanche, mais attendez, avant de partir, on va prier pour vous. Oui, Seigneur, nous te confions les enfants qui seront tout à l'heure à l'école du dimanche. Nous te demandons de les bénir et que la petite graine de ton amour soit semée vraiment dans leur cœur. Accompagne-les, accompagne aussi les moniteurs qui seront avec eux maintenant. Amen. Alors, je demanderai à Daniela et Cédric de se lever. Voilà, c'est eux qui vont s'occuper de vous. Alors, vous pouvez y aller, les enfants.
Pour le prochain chant, je vais lire le psaume 29, 8 à 11. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous écrient gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Nous allons chanter ce chant du groupe Héritage qui dit « La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. » Je réponds « Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons et mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus, pour toujours. »
Eh bien, bonjour à chacun, à chacune, heureux de vous retrouver. Comme dit, cordial bienvenue aux amis de la paroisse protestante de Mérin qui nous rejoignent. On est repartis pour cette belle saison des cultes en commun pendant l'été. Sur 8 dimanches, nous inaugurons la série ce matin. Pour des questions logistiques, l'alternance ne se fera que dans 3 semaines. Donc dimanche prochain, le culte se tiendra encore ici, mais avec la pasteur Isabelle Frélogeon, ce ferreur de la paroisse de Vernier. Et puis ensuite, le 17, nous serons au CEPOM, donc à la cité, avec l'alternance ensuite ici, jusqu'au 28 août prochain. Merci pour les chants choisis qui nous mettent, selon le thème choisi, en marche avec Dieu, un beau thème qu'on va essayer d'explorer un peu ensemble pendant cet été. J'aimerais prier. Cher Seigneur, nous nous tenons devant toi, conscients de ta grandeur, de ta majesté, de ta sainteté, de ta proximité. Te suivre n'est pas affaire facile. Nous le savons bien au fond de nous-mêmes, nous le constatons. Et pourtant, tu sais notre désir de t'honorer. Nous avons besoin de toi, de ton Saint-Esprit, de ta parole, d'une communauté chrétienne. Et nous nous attendons à toi. Puis nous pensons à ceux qui paient un prix fort à la confession de leur foi. Pensons à ton Église persécutée, à celles et ceux qui sont jetés en prison, limités dans leurs déplacements, à ceux qui n'ont pas accès aux soins, à l'éducation. Nous pensons aussi à ceux qui sont sur les routes de l'exil. Et nous te demandons de te rendre présent à leur côté. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Aide-nous à jouir de notre belle liberté et à marcher avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors pour ce premier dimanche de culte de l'été, sur ce beau thème de la marche avec Dieu, je propose effectivement que nous nous arrêtions sur une histoire, peut-être un des récits les plus étonnants de l'Ancien Testament. Quelques mots sur le contexte. Nous sommes avec le peuple hébreu qui se trouve en marche avec Dieu. En marche avec Dieu. C'est parfois chaotique dans leur histoire, comme ça peut l'être dans nos vies. Toujours est-il que le peuple est en marche avec Dieu, comme nous pouvons l'être à notre tour, comme nous le sommes à notre tour. Alors le peuple hébreu, après être sorti d'Égypte sous la conduite de Moïse, après avoir traversé le désert pendant 40 ans, en marche avec Dieu, les voilà proches, tout proches, de la terre promise par Dieu à leur ancêtre Abraham. Tout proches de la terre promise. Ils campent dans les plaines arides de Moab. Ils sont à l'est du Jourdain, juste en face de Jéricho. Mais voilà que les autochtones, et on les comprend, ne voient pas leur arrivée d'un très bon œil. C'est qu'ils ont une réputation de violence qui les précède. Donc les autochtones ne les voient pas arriver sereinement. Et au tout début du chapitre dont nous allons lire une partie dans quelques instants, nous voyons donc le roi de Moab, les autochtones, un roi nommé Balak, le roi de Moab, qui décide alors de se tourner vers un prophète puissant, du nom, lui, de Balaam. Nous avons donc Balak, le roi de Moab, et Balaam, le puissant prophète. Et Balak, le roi, demande à Balaam, le prophète, de jeter une malédiction contre ce peuple venu d'Égypte. pour que lui, Balak, et ses armées aient une chance de le vaincre, ce peuple. Balak demande à Balaam, le prophète, de jeter une malédiction sur le peuple d'Israël. Nombre 22, verset 6. Mais voilà, dans la nuit, Dieu parle au prophète Balaam et lui dit de ne pas aller avec le roi Balak et surtout de ne pas maudire ce peuple que lui, Dieu, a béni. Mais voilà, le roi Balak, qui apprend la nouvelle dans la bouche de Balaam, je ne veux pas y aller, le roi Balak insiste. Le roi Balak presse Balaam, promettant au prophète de le combler d'honneur s'il se décide à venir avec lui. Nombre 22, versets 15 à 19. Alors Balaam, le prophète, attend encore une seconde nuit. Il attend ce que Dieu va lui dire. Dans la première nuit, Dieu lui a dit de ne pas y aller. Qu'est-ce que Dieu va lui dire de la seconde nuit ? Je vous propose que nous prenions le récit à partir de là et je vous invite à suivre, à écouter la lecture de Nombre 22 au verset 20 à 35.
Dieu vint auprès de Balaam pendant la nuit et lui dit « Si c'est pour t'appeler que ces hommes sont venus, vas-y, pars avec eux, mais tu feras seulement ce que je te dirai. » Le lendemain matin, Balaam se leva, sella son âne et partit avec les dignitaires de Moab. Mais Dieu se mit en colère en le voyant partir, et l'ange du Seigneur se posta sur le chemin pour lui barrer la route, tandis qu'il cheminait, monté sur son ânesse, accompagné de ses deux serviteurs. L'ânesse vit l'ange du Seigneur posté sur le chemin, l'épée nue à la main, quittant le chemin, elle prit par les champs. Balaam battit l'ânesse pour la ramener sur le chemin. L'ange du Seigneur se plaça alors dans un chemin creux, qui passait dans les vignes entre deux murs. L'ânesse vit l'ange du Seigneur, elle se serra contre le mur, et comme elle serrait le pied de Balaam contre le mur, il se remit à la battre. L'ange du Seigneur les dépassa encore une fois pour se placer dans un passage étroit, où il n'y avait pas la place d'obliquer, ni à droite, ni à gauche. L'ânesse vit l'ange du Seigneur, elle s'affaissa sous Balaam, qui se mit en colère, et battit encore à coups de bâton. Le Seigneur fit parler l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu te mettes en colère par trois fois ?»« C'est, lui dit Balaam, que tu prends ton aise avec moi. Si j'avais une épée en main, je te tuerais sur le champ. » Et l'ânesse répondit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, celle que tu montes depuis toujours ?» Est-ce mon habitude d'agir avec toi ? Non, lui dit-il. Le Seigneur dessila les yeux de Balaam, qui vit l'ange du Seigneur posté sur le chemin, l'épée nue à la main. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. Alors l'ange du Seigneur lui dit, « Pourquoi as-tu battu ton ânesse par trois fois ? Tu le vois, c'est moi qui suis venu te barrer la route, car pour moi, c'est un voyage entrepris à la légère. L'ânesse m'a vu, elle, et par trois fois s'est écartée de moi. Si elle ne s'était pas écartée devant moi, je t'aurais tué sur le champ, tandis qu'à elle, j'aurais laissé la vie sauve. » Balaam dit à l'ange du Seigneur, « J'ai péché, car je n'ai pas reconnu que c'était toi qui étais posté là devant moi sur le chemin. Maintenant, si ce voyage te déplaît, je m'en retournerai. » Mais l'ange du Seigneur lui dit, « Va avec ces hommes, mais tu diras seulement ce que je te dirai. » Balaam s'en alla donc avec les dignitaires de Balak.
Merci Daniel. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Et voilà donc un récit pour le moins surprenant. Enfin, je ne sais pas vous, mais quand ce texte m'a été imparti, je me suis dit, il y a du lourd. Le récit lui-même est surprenant. Il y a d'abord, bien sûr, l'ânesse de Balaam. L'ânesse qui voit l'ange du Seigneur sur la route, alors que le prophète, lui, ne le voit pas. Et ça, trois fois de suite, versets 23, 25 et 27. L'ânesse voit l'ange du Seigneur sur la route. C'est déjà surprenant. Ensuite, la même ânesse qui a vu l'ange du Seigneur sur la route trois fois, la même ânesse se met à parler. Verset 28. À la rigueur, pourquoi pas ? Dieu est tout-puissant. Pourquoi pas ? Une ânesse qui parle. Mais le plus étonnant, c'est même pas que l'ânesse parle. Le plus étonnant, c'est que Balaam semble trouver ça tout à fait normal, puisqu'il discute avec elle. C'est Shrek. Franchement, vous, à la place de Balaam, vous auriez réagi comment ? Vous imaginez, vous êtes en train de promener votre chien, comme tous les jours, puis tout à coup, votre chien s'arrête, pas pour faire pipi, mais pour vous parler. Il vous regarde, et puis il se met à parler. Vous faites quoi ? Vous tapez la discute avec lui ou sans broncher comme ça ? Ou ça s'arrête là vous... Comment ? Et c'est pourtant ce que semble faire Balaam avec son ânesse. Il engage la discussion. Et cet élément me laisse à penser que ce récit, pour inspiré qu'il soit, n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Mais c'est pas ce qui m'importe le plus ce matin. On pourrait en discuter. Alors, on va juste prendre le récit tel qu'il nous apparaît, avec ses péripéties, avec ses dialogues étonnants, puis avec son humour aussi. Il y a de l'humour dans ce récit. Et on va essayer de se demander quel en est le message. Déjà pour le peuple hébreu, au moment de son histoire, dans sa marche avec Dieu. Et puis, est-ce qu'éventuellement, il y aurait quelques prolongements pour nous à discerner aujourd'hui dans notre marche avec Dieu ? D'autant que la discussion entre Balaam et son ânesse n'est pas le seul élément étonnant de ce récit. Parmi les choses étonnantes dans ce récit, il y a, me semble-t-il, aussi l'attitude même de Dieu. Dieu est surprenant, parce qu'on le voit se mettre en colère quand Balaam se met en route, alors qu'il vient juste de lui dire de partir. Versets 20 et 21, Dieu dit à Balaam de se mettre en route, et pourtant quand Balaam se met en route, il se met en colère contre lui. Dieu est étonnant. Et puis ensuite, ce Dieu qui a demandé à Balaam de se mettre en route empêche Balaam de passer, affirmant même, verset 33, qu'il l'aurait tué si l'ânesse ne s'était pas arrêtée. Et après lui avoir dit ça, après lui avoir dit « Si ton ânesse ne s'était pas arrêtée, je t'aurais tué », Dieu lui dit que finalement il doit continuer son chemin en lui redisant en gros ce qu'il lui avait dit avant qu'il parte. Dieu est étonnant. Je ne sais pas vous, mais des fois, moi, j'y comprends pas grand-chose. Alors, pourquoi Dieu se met en colère ? pourquoi Dieu se met en colère. Rappelons-nous que lorsque le roi Balak était venu demander de l'aide à Balaam, Dieu avait dit clairement à Balaam, verset 12, « Non, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas le peuple d'Israël parce que je l'ai béni. » Et Balaam fait remonter sa réponse négative à Balak. Mais Balak revient à la charge avec une nouvelle ambassade et une demande renouvelée. Et là, je me demande si la deuxième réponse de Balaam était si honnête que ça. Balak a insisté en promettant de le couvrir d'honneur, mais sans vraiment préciser les choses. Et Balak, à ce moment-là, Balaam, est explicite dans sa réponse, et je trouve même qu'il en rajoute un peu. Verset 18. « Même si Balak me donne tout l'argent et tout l'or qui remplissent sa maison, je ne peux pas faire une chose, petite ou grande, contre l'ordre du Seigneur, mon Dieu. » Mais il a cette grande sortie, c'est admirable. Le gars, il dit, même s'il me couvre d'or, moi, je ne bougerai pas. C'est sûr et certain, il ne m'aura pas. Je ne suis pas de ceux-là, moi. Mais malgré tout, Balaam demande aux émissaires de Balak de rester encore pour la nuit, au cas où Dieu lui dirait quelque chose. Verset 19. Est-ce que la première réponse de Dieu n'était pas assez claire? Est-ce que Dieu a manqué de clarté dans sa première réponse quand il dit à Balaam, « Non, tu n'iras pas. » C'est quoi qui ne comprend pas dans les mots « Non, tu n'iras pas » Et pourquoi est-ce que Dieu changerait d'avis? Pourtant, c'est quand même ce qu'il semble faire. Puisqu'il lui dit, « Si ces hommes sont venus t'appeler, pars avec eux. » Ah bon? Dieu n'était pas au courant qu'ils étaient déjà venus l'appeler avant? Dieu a changé d'avis? En fait, je vous donne mon impression ici. Moi, mon impression, c'est que Dieu connaît le cœur de Balaam et qu'il le laisse aller, se disant que de toute façon, s'il veut y aller, eh ben, il faut qu'il y aille. Tu veux y aller, Balaam? Ben, vas-y. Et attention, il lui précise, tu feras seulement ce que je te dirai. L'empressement dont le prophète fait preuve ensuite semble bien confirmer tout ça. Il ne se fait pas prier, Balaam. Dès le lendemain matin, il selle son ânesse et il prend la route. Et ensuite, il sera incapable de voir l'ange qui lui barrera le chemin. La colère de Dieu ne trahit pas un brusque changement d'humeur de sa part. Dieu n'est pas soupe au lait. Dieu n'est pas capricieux. Dieu n'est pas tonitruant ou taciturne. Probablement que le Seigneur veut plutôt donner une leçon à son prophète. Il s'obstine à vouloir contourner la réponse négative de Dieu. Eh bien, Dieu à son tour s'obstinera à bloquer Balaam sur son chemin. Obstination contre obstination. Une autre question qui se pose quand je lis ce récit, c'est pourquoi ce prophète, Balaam, est-il moins clairvoyant que son ânesse? Comment se fait-il que l'ânesse soit plus clairvoyante que le prophète? C'est toute l'ironie de l'histoire ici. C'est chargé d'ironie et d'humour. Alors que le prophète ne comprend pas ce qui se passe, l'ânesse voit, elle, l'ange du Seigneur, trois fois. La première fois, elle peut léviter en passant par les champs. La deuxième fois, elle doit raser les murs, blessant au passage le pied de Balaam. Mais la troisième fois, le passage est trop étroit et l'ânesse ne peut plus que s'arrêter. Et le prophète, lui, il comprend rien. Il ne voit rien du tout. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est se mettre en colère contre son ânesse par trois fois et la rouer de coups. Balaam semblait pourtant jusque-là capable d'entendre très clairement la voix de Dieu. C'est un grand prophète. Dieu parle, le prophète entend, le prophète restitue. C'est ça la prophétie dans l'Ancien Testament. Il y en a deux sortes. Soit Dieu parle, le prophète entend et le prophète restitue ce qu'il a entendu, littéralement. Soit Dieu montre quelque chose, le prophète décrit ce qu'il a vu et le peuple reçoit. Mais en tous les cas, grand prophète Balaam, il était habitué à entendre, à reconnaître et à restituer la voix de Dieu. Mais là, il voit rien. Rien. Son ânesse voit tout, lui, rien. C'est probablement qu'il était trop concentré sur l'objectif de son voyage, aveuglé par la perspective des récompenses promises par le roi de Moab, Balaam. Il a donc obtenu le feu vert de Dieu pour répondre positivement à l'offre de Balak. Alors il y va. Il se met en route avec son ânesse, Balaam. Il ne se pose plus de questions. En fait, c'est comme s'il était déjà arrivé au bout de son chemin, déjà arrivé, déjà accompli, et du coup, il n'est plus prêt du tout à rencontrer Dieu sur la route. Parce qu'il y est déjà. Pourtant, il aurait quand même dû se douter qu'il y avait quelque chose qui clochait quand Dieu lui a dit d'aller vers Balak alors qu'il venait de le lui interdire formellement. Il faudra donc, pour que le prophète sorte de sa torpeur, que le Seigneur lui ouvre les yeux, lui dessille le regard, comme il le ferait pour un aveugle. Alors seulement, Balaam verra l'ange du Seigneur et reconnaîtra sa faute. Étonnante cette histoire. Dieu est étonnant. J'essaie de la comprendre et après avoir fait le voyage vers la Bible, de proposer à la Bible de faire le voyage vers nous. Peut-être on peut reconnaître là quelques applications concrètes. La première que je tire pour moi, en tout cas, et que je vous propose, c'est que Dieu nous laisse aller parfois jusqu'au bout de nos obstinations. Dieu nous laisse aller parfois jusqu'au bout du bout de nos obstinations. Et ce que nous voulons, nous l'obtenons. Il le permet. Il l'organise même. Il faut parfois faire en nos vies l'expérience de l'échec, du bout de soi-même, se retrouver face à un mur pour comprendre. Ça peut être douloureux, mais nécessaire. Parce que Balaam n'est pas un cas isolé, loin de là, dans la Bible. Dans la Bible, où nous trouvons une expression qui revient à de nombreuses reprises pour qualifier l'obstination du peuple de Dieu. L'obstination du peuple de Dieu. Cette expression qui revient à de nombreuses reprises, c'est la suivante. Avoir la nuque raide. avoir la nuque raide, c'est-à-dire refuser de courber la tête, n'en faire qu'à sa tête. Aujourd'hui, on dirait peut-être avoir la tête dure. Vous ne vous sentez pas concerné ? Vraiment ? Jamais ? Dieu nous laisse parfois aller jusqu'au bout de nos obstinations. Ce que nous voulons, nous l'obtenons. La deuxième remarque, avant de conclure, c'est qu'il me semble qu'il y a là une sorte de mise en garde. Il n'y a pas plus aveugle que celui ou celle qui ne veut pas voir. Il n'y a pas plus sourd, pas plus sourde que celui ou celle qui pense avoir tout compris sur tout. Enfermés dans nos certitudes, nous ne sommes parfois plus capables de voir Dieu sur notre chemin. Même un prophète est moins clairvoyant qu'un âne quand il s'enferme dans son obstination. Même un prophète est moins clairvoyant qu'un âne quand il s'enferme dans son obstination. Et l'exemple tragicomique de Balaam devrait donc nous inviter à l'humilité. Méfions-nous de nos certitudes. Et je fais ici une différence nécessaire entre les convictions et les certitudes. On se connaît un peu, vous savez, des convictions, j'en ai chevillé au cœur et je crois que c'est important de se forger des convictions solides, d'affermir sa foi, d'approfondir sa connaissance en Dieu, d'avoir des grands principes de vie qui nous mettent en mouvement. On peut et on doit s'appuyer sur ces convictions, on peut les partager avec grâce. On peut et on doit parfois les défendre, ces convictions. Mais gardons-nous de faire de nos convictions des certitudes. Et par certitude, je veux dire des vérités absolues, définitives, qu'on ne peut même pas discuter, qui ne peuvent pas souffrir d'être nuancées, remises en question, revues aux besoins, affinées en fonction du réel. On pourrait dire qu'une certitude a le cou raide, alors qu'une conviction est prête à se laisser modeler. Pour le dire très courtement, les fanatiques de tout poil ont des certitudes. Les croyants ont des convictions. Nos certitudes nous rendent aveugles. Elle nous empêche de voir le Seigneur sur notre chemin. Elle nous empêche d'y voir les différentes teintes qu'il y met, y compris parfois par son humour et son ironie, par la beauté, par la simplicité, par l'extraordinaire, le miraculeux, comme par le petit et l'ordinaire. Nos convictions nous gardent les yeux ouverts. Elles s'affermissent dans la rencontre avec Dieu et avec nos prochains. C'est aussi cela, rester en marche avec Dieu. Épilogue. Parce que l'histoire de Balaam ne s'arrête pas là. Ce n'est pas la suite de nos cultes, mais si vous avez un peu de temps cet après-midi sous le pommier, lisez les chapitres qui viennent, ça vaut le coup. L'histoire de Balaam ne s'arrête pas là. Il semble bien avoir retenu la leçon, parce que dans les deux chapitres suivants, il nous est raconté comment par trois fois, le prophète prononcera des bénédictions pour le peuple d'Israël au lieu des malédictions qui lui avaient été demandées. Il rappellera au passage les promesses de Dieu envers son peuple concernant son alliance et la terre qui lui était promise et la bénédiction universelle de l'alliance. Si bien que le pauvre roi Moab finira par dire à Balaam, ok. Enfin, il lui dit pas ok parce qu'il connaissait pas ok. Il lui dit d'accord. D'accord, tu peux pas les maudire, mais au moins arrête de les bénir. Nombre 23, verset 25. Ce récit étonnant de Balaam a toute son importance dans le très beau livre des Nombres. En marche vers la terre promise, au milieu de peuples pas toujours bienveillants à leur égard, le peuple d'Israël peut être rassuré. Dieu restera toujours fidèle à son alliance et à ses promesses. Toujours fidèle. Et je trouve qu'il y a là une belle chose encore à retenir pour nous. Parce que si nous devons nous méfier de nos certitudes, il y a bien une assurance sur laquelle nous pouvons nous appuyer, ce que j'appelle une conviction chevillée au cœur, c'est que Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Toujours. Quels que soient les obstacles sur la route, quels que soient les adversaires qui nous mettent des bâtons dans les roues, et quelle que soit notre obstination, Dieu reste toujours fidèle à ses promesses et à son alliance. Et je crois qu'avec ça, nous pouvons assez sereinement continuer notre marche avec lui. Amen.
Psaume 68, 5 à 11, je lis. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Chantons ta bienveillance. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le jour. Fidèlement, je le suis, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie. Ta bienveillance, ô Éternel.
gloire est proche, son règne vient et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai. Délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
Je vous propose un petit exercice. Ce n'est pas de la gym, rassurez-vous. Mais un exercice, c'est d'offrir un bouquet à notre Seigneur. Alors, ce n'est pas un bouquet pour sa fiancée, sa copine, avec que des roses, mais c'est un beau bouquet nature, cueilli dans la nature, cueilli dans les herbes. Le but, c'est que chacun puisse s'exprimer. Alors, il y a des petites fleurs, il y a des grosses fleurs. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui est important, c'est que chacun puisse participer. Et je vous invite vraiment à louer, à redire notre joie de le connaître, d'admirer sa présence, d'admirer ses œuvres. Alors, on fera des petites prières, vraiment courtes, un mot, une phrase, et laissez-vous inspirer, puisque l'Esprit parle. Et aussi que les timides, ceux qui ne prient jamais dans l'Église, puissent le faire, c'est une occasion. Avant de commencer ce moment, je vous invite à lire un texte qui est dans Job. Alors Job, vous connaissez l'histoire, il a souffert énormément. Il a eu des moments très difficiles et pourtant il a écrit ceci. « Je reconnais que tout est possible pour toi. Je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser. Tu l'as dit, j'ai osé rendre les plans obscurs à force de parler de ce que j'ignorais. Je l'avoue, j'ai parlé d'un sujet trop ardu. Je n'y comprenais rien et je ne savais pas. Écoute, disais-tu, et laisse-moi parler. Je t'interrogerai et tu me répondras. Je ne savais pas que de toi ce qu'on m'avait dit, mais maintenant c'est de mes yeux que je t'ai vu. » Donc le Seigneur, on peut vraiment le louer et l'adorer. Alors je vous invite à faire des petites prières. Si j'arrive à temps à passer avec le micro, j'arrive, mais si ça fuse, il n'y aura pas de micro et puis vous pouvez prier librement. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur.
Seigneur, pour tes promesses qui sont oui et amen pour toujours. Et je veux, Seigneur, te faire confiance.
Tu es fidèle et chaque jour, je peux compter sur ton amour. Merci.
Amen.
Merci Jésus pour le prix que tu as payé à la croix pour qu'aujourd'hui on puisse se tenir devant le trône. Merci Jésus pour ce sacrifice. Sois loué, sois béni, sois exalté. Dans la vie, le monde de Dieu.
Merci Seigneur pour cette communauté que nous formons, ton esprit, cet amour que nous pouvons recevoir de toi et partager. Amen.
Merci Seigneur de ce que tu es vivant et de ce que tu nous parles encore aujourd'hui.
Merci pour ta fidélité plus forte que nos infidélités.
Merci Seigneur, toi qui nous protèges de la malédiction et qui nous comble de bénédiction, même lorsque nous n'avons aucune conscience.
Merci parce que tu parles encore à notre esprit. Comme tu as fait parler un âne, tu peux aussi nous te révéler à nous, dans notre sommeil, dans notre journée, par toutes sortes de moyens. Seigneur, merci pour ce moment de prière. Merci pour ta présence. Merci pour ce bouquet que nous avons pu t'offrir. Oui, tu es vraiment Seigneur, tu es vraiment le roi des rois. Et nous te louons. Nous avons cette joie de te connaître, de nous réjouir. Seigneur, effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, merci pour cette communauté qui nous lie les uns aux autres. Amen. Voilà, on arrive au terme de ce culte. Et nous allons passer aux annonces. On céderait aussi la parole à la paroisse protestante. Est-ce qu'il y a des annonces de la paroisse à communiquer à tous? Pas cette fois, ils ne sont pas prêts. Alors, je cède la parole à Philippe pour les annonces de l'Église.
Voilà, quelques annonces à partager avec vous, aussi parce que l'Église, ce n'est pas que le dimanche matin, ou en tout cas pas que le dimanche matin, entre 10 et 11h15 à peu près, là, 11h05, on est bon sur l'horaire. Hein. Vous rappelez que le dimanche matin, je crois à 9h30, hein, c'est juste Clémentine que je vois là, à 9h30, il y a une rencontre de prière pour celles et ceux qui souhaitent prier un moment avant le culte, remettre le temps de culte entre les mains de Dieu, partager l'un ou l'autre fardeau, tous les dimanches matins à 9h30. Alors, ils sont peu, hein, ce matin, ils étaient deux, mais c'est toujours ça. Mais tous les dimanches matins à 9h30, dans la salle du groupe de jeunes, un petit moment de prière libre, juste avant le culte. Chacun, chacune y est le bienvenu. Pour que nos cultes puissent bien se dérouler, on a besoin de belles équipes musicales, on a besoin de belles équipes techniques aussi. Si l'un ou l'autre avait envie de rejoindre cette équipe technique, n'hésitez pas à vous adresser à Thierry, Roxane, au fond, on y reviendra, mais on a besoin d'un peu d'aide pour les équipes techniques et puis une super formation qui est assurée, ça vaut le coup. De suite après ce culte, nous avons le café qui nous est offert, n'hésitez pas à rester un peu, à échanger, à partager. Nous poursuivons donc nos cultes de l'été les dimanches qui viennent, dimanche prochain, ici même, avec la pasteur Isabelle Frey-Logent. Et puis, nous aurons cette semaine les premières grillades estivales des quatre dates. Ce mercredi 6 juillet, dès 18h, si le temps le permet, on compte bien dessus. Des grillades là-dehors, on fournit le matériel pour griller, puis vous venez avec vos grillades, desserts, boissons, salades, tout ça, et puis tant qu'il fait jour, on reste là. C'est vraiment des bons moments. Je vous encourage et chacun, chacune est invité à participer à ces grillades estivales, les premières, ce mercredi. Les pasteurs sont à votre disposition dès après ce culte et puis en semaine. Je signale simplement que ma super collègue Célina est en vacances depuis ce matin sur les plages de Biarritz. Donc ne l'appelez pas, ne vous étonnez pas si vous ne la voyez pas pendant 15 jours. Salina est en vacances, je suis là. Puis quand elle revient, c'est moi qui irai non pas sur les plages de Biarritz, mais dans les montagnes valaisannes. Et puis nous vous remercions beaucoup pour vos dons qui permettent à l'Église de vivre. Vous pouvez les exercer au moyen de la boîte à offrandes à la sortie. Et je précise aussi pour nos amis de la paroisse que pendant l'été, les dons récoltés sont ensuite répartis selon une savante clé de répartition en fin de saison entre nos deux communautés. Mais merci pour vos dons, ils permettent à l'Église de vivre et de tenir ses engagements. Merci pour votre générosité. Et puis je vous invite à vous lever pour la bénédiction que je fais en deux temps, avec d'abord un texte du Nouveau Testament et puis ensuite un texte de l'Ancien. Le texte du Nouveau Testament, il parle de conviction, et c'est l'apôtre Paul qui dit ceci en Philippiens 1, verset 6. « Telle est ma conviction. Celui qui a commencé en vous une œuvre excellente en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Et j'emprunte la bénédiction au livre des Nombres, au chapitre 6. Le Seigneur dit à Moïse, parle à Aaron et ses fils et dis-leur, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Ils apposeront ainsi mon nom sur les fils d'Israël et moi, dit le Seigneur, je les bénirai. Alors, qu'il vous accorde sa bénédiction, je vous souhaite à chacun, à chacune, une belle semaine sous sa garde. À bientôt.